du jour au lendemain avec Pierre Guyotat pour deux livres, Progéniture chez Gallimard et Explication des entretiens avec Marianne Alphand aux éditions Léo Cher. Ceux qui vous demandaient, Pierre Guyotat, au début des années 90, pourquoi vous faisiez si peu d'apparitions publiques, vous répondiez que c'était parce que vous aviez alors la moitié de votre œuvre inédite et qu'elle était très différente de celle qui était publiée. À cette époque-là, vous commenciez à écrire Progéniture. Hein, je crois qu'il y a une première période d'écriture de 91 à 96, puis ensuite une version transformée de 97 à 99. Il y avait un autre élément important, c'est que depuis Bond en avant, qui date, je crois, de 72, vous écriviez en verset, hein, c'est-à-dire pas en vers libre, mais en vers rythmé, non rimé, en octosyllabes, en décasyllabes, en vers de 15 pieds et plus. Donc une transformation complète de votre écriture.
Oui, sauf que ce n'est qu'avec Bivouac, un texte de théâtre en 1987, qui a été joué donc dans le cadre du Festival d'automne à l'époque, j'ai ce verset, cette sorte de. Enfin, ce rythme, puis ce verset, je l'ai en quelque sorte signalé, je l'ai découpé typographiquement. Ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Et là, depuis, évidemment, je l'ai développé, les versets se sont allongés. Peut-être même que le rythme a changé, même de nature ou de propos, je ne sais pas. Enfin, le rythme était là, effectivement. Au moment de ce premier texte de théâtre en 1972.
C'est arrivé comme
disons,
ça.
Ce retour au rythme, disons.
Et maintenant, tous les textes que vous écrivez sont écrits spontanément en verset.
Ces textes-là.
Oui. Mais, vous avez dit un jour, dans un entretien avec Jacques Henrique dans Art Presse, que le verset vous était naturel comme le manger.
Ah bon, je me souviens. Oui.
Ce que vous voulez alors avec le verset, c'est faire rentrer la prose dans la poésie.
Ah ça, je ne sais pas. C'est pas. Je ne crois pas quand même. Je crois que l'usage du rythme, enfin l'usage renouvelé du rythme, malgré tout, entraîne un changement. Je l'ai beaucoup expliqué dans l'explication, je crois. Entraîne un changement de la vision quand même, de la vision, de la description, si je puis dire, du monde, où l'on retrouve par moments quelques éléments, hein, il n'y a pas de mystère, où l'on trouve quelques éléments de la poésie ancienne, hein, de la poésie universelle, hein, la poésie antique ou la poésie moderne. Donc, ce n'est pas de la prose, ça je l'affirme.
Ouais.
Ce n'est pas de la prose. Donc, ce n'est pas du roman. Ou alors, c'est le roman au sens de Chrétien III, disons. Voilà, peut-être.
Donc, si c'est pas de la prose que vous auriez fait rentrer dans la poésie, c'est peut-être de la poésie que vous faites rentrer dans la prose.
Disons, c'est ce que j'ai fait entrer dans la poésie. Disons que c'est peut-être une sorte de compromis entre la prose et la poésie. J'ai fait rentrer dans la poésie, dans le rythme qui devrait être celui de la poésie, et qui l'est si peu finalement, je trouve, aujourd'hui, les éléments qui sont utilisés dans la prose, c'est-à-dire dans le récit. C'est-à-dire le concret. Mmh. Le concret, les figures, les objets, d'une façon précise, pas d'une façon évocatrice ou non, d'une façon précise. Voilà. Les décors, les...
La poésie, c'est
un... L'action, surtout, l'action, oui. L'action, l'action minuscule, l'action majuscule, l'action interne, externe, historique, anti-historique, enfin, tout ce qu'on veut, l'action.
La poésie, c'est un mot qui ne vous agace pas, qui ne...
La poésie, non. Poème, non. Ça, je n'ai jamais aimé ce terme-là. Le poème, c'est déjà... une installation dans la poésie. La poésie, ce n'est pas quelque chose qui est d'une certaine façon si définissable que ça. La poésie, c'est, bon, voilà, l'origine faire, c'est faire, faire agir, c'est, comment dirais-je, c'est l'énergie, la poésie. Donc la poésie, voilà.
Mmh. C'est un désir poétique qui est au commencement de votre écriture.
C'est-à-dire un désir de... Un désir, oui, de recomposer le monde, d'une certaine façon, oui. Si c'est ça, le désir poétique.
Mmh. Vous racontez ça un peu dans l'explication.
Je pense que c'est ça, oui.
Ce livre auquel on a fait allusion au début, donc, oui. Qui est un livre d'entretien avec
oui.
Marianne Alphand, publié chez Léo Cher. Et là, vous racontez que vous aviez pris pension chez un grand-oncle en Bretagne, à la fin 65, pour achever Tombeau,
oui.
Pour 500 000 soldats, c'est-à-dire... votre premier livre, qui a été publié en 1967.
Enfin, et mon premier livre, disons, d'importance. Voilà.
Et cet oncle était chirurgien, et essayait de vous dire que vous aviez, vous aussi, des mains pour ça, pour cet art-là.
Oui.
Mais c'est plutôt le désir poétique qui, à l'époque, vous travaillez.
Oui, mais vous voyez, c'est à peu près pareil, au fond.
Et qui l'a emporté.
Qui l'a emporté, oui.
Et qui continue à l'emporter.
Oh, maintenant, je n'ai plus le choix, on va dire.
Comment ça, vous n'avez plus le choix?
Je n'ai plus le choix, je ne vois pas très bien comment je pourrais recommencer une vie, enfin, un métier, sauf effectivement à reprendre les choses à zéro, c'est-à-dire à apprendre un métier, si je peux dire.
Parce que dans ces entretiens, vous reconnaissez que vous auriez aimé être tellement d'autres que ce que vous êtes aujourd'hui.
Bien sûr, d'autres, oui, tout à fait, oui, tout à fait.
Quel autre, par exemple?
Non, mais je dis à quel point, enfin, une fois, à quel point j'ai... Enfin, comme tout le monde, enfin, comme tous ceux qui, dans leur art, arrivent à... quand même à certaines limites, à un certain niveau, la chose apparaît, la chose, cette pratique-là apparaît comme extraordinaire, comme magnifique, puisque au fond c'est aussi une activité qui... c'est une des rares qui perdure finalement dans l'histoire. Mais à quel point cette activité est au fond dérisoire, fragile, et repose aussi sur... C'est une activité qui repose d'abord sur le doute, beaucoup. C'est le doute qui fait qu'on avance. Et repose sur, essentiellement sur la fragilité, sur le trouble, sur, d'une certaine façon, sur une sorte d'incompétence à vivre, peut-être. Hein? Alors qu'il y a des activités qui reposent sur un socle de savoir extraordinaire, savoir obtenu d'une façon... très régulière, hein, la médecine, la science en général, par exemple, tout ce qui ressort du travail de l'ingénieur, par exemple. Hein. Pour moi, c'est le summum, pour moi, d'une certaine façon. Ceux qui bâtissent, les gens, celles qui bâtissent. Voilà. Parce que là, les bases sont des bases, d'une certaine façon, oui, régulières, en quelque sorte reconnu. Ce n'est pas la fragilité du moi chez quelqu'un qui fait qu'il devient ingénieur, hein, je ne pense pas. Ou alors je me trompe peut-être.
Avec
je
des
pense
livres,
que c'est la conscience qu'il, qu'il est solide sur le monde, tandis que l'artiste ou l'enfant poète sait qu'il est très peu.
Oui, mais regardez l'ingénieur informaticien, il est très peu aussi.
Oui, peut-être que les choses vont changer à ce niveau-là. C'est possible.
Avec des livres, on ne construit rien.
Moi, je suis encore sur le. Mon grand-père était un ingénieur, qui était parti de rien du reste, et qui est devenu un assez grand ingénieur. Je suis sur cette vision de l'ingénieur.
Les livres.
Hein?
On ne construit rien avec des livres.
Non, mais bien sûr, oui. Oui, on construit, oui, mais on construit, déjà c'est très aléatoire aussi, il suffirait de très peu pour qu'on ne construise plus rien, pour qu'on rate tout, et c'est construit quand même sur une, c'est ce que moi j'éprouve en tout cas, et c'est ce qui me sépare effectivement, je crois, je le dis sans aucune intention agressive ou polémique, c'est ce qui me sépare de beaucoup, disons, d'intellectuels qui se sentent, eux, très solides sur leur monde, dans leur conviction, etc. Moi, j'ai une sensation d'une fragilité. J'ai la sensation d'avoir toujours rusé avec entre ma nature et les faits, ma nature et la réalité. Voilà. Et ça a fonctionné, mais ça aurait très bien pu très rapidement s'effondrer. Voilà.
En attendant, ils sont debout, ces livres.
Oui, ils sont debout, oui. Et moi aussi.
Et les écrire, ça ne remplit pas une vie, comme on dit couramment.
Oui, c'est vrai. Je pourrais avoir 30, 40, 50, 100 livres chez moi, que ça ne changerait rien à l'affaire.
Vous n'aimez pas beaucoup, d'ailleurs, qu'on vous considère comme un écrivain. C'est une appellation, dites-vous, toujours dans ces entretiens, qui convenait peut-être pour vos premiers livres.
Oui, mais c'est comme poème. C'est un mot qui installe quelqu'un dans une activité. Voilà.
Aujourd'hui, vous revendiquez plus comme artiste.
Une activité qui pour moi n'est pas grandiose pour moi. Dans une société, oui, ce que je veux dire. Mais c'est ainsi que je le vois. C'est peut-être un vieux reste de méfiance dû à mes origines, comme ça, de méfiance vis-à-vis de l'art, vis-à-vis de la culture, c'est possible.
Parce que c'est pas vrai? Parce que c'est du jeu?
Parce que c'est en plus. Ça serait en plus de la vraie vie ou de la vraie. Voilà.
C'est. De l'excès?
Oh, de l'excès, non, justement pas de l'excès. L'excès, ça serait une. L'excès, c'est la vie de bâton de chaise, comme on dit. Voilà, c'est ça l'excès. Ça, non.
C'est du luxe?
Non, pas du. Oh non, pas du tout. Ah non, c'est pas du luxe. Non, ça, c'est pas du luxe. Certainement pas.
Mais vous ne pouvez pas vous en passer?
Oh, la question ne se pose même pas. C'est. Non. J'ai jamais essayé, à vrai dire. Je n'ai pas essayé. Il y a eu des circonstances dans ma vie où j'ai été, en quelque sorte, je me suis retrouvé privé de pouvoir pratiquer cette activité. Et j'en ai beaucoup souffert, effectivement. Mais quand je suis dedans, effectivement, j'oublie assez rapidement que c'est une activité, que ça pourrait être une activité... fragile et dérisoire, je dirais même coupable d'une certaine façon. Mais pas du luxe, certainement pas.
Coupable?
Coupable, oui, parce que au lieu de faire servir toutes les forces qu'on a, physiques, intellectuelles, morales, etc., de cœur, d'esprit, tout ça, à des choses touchant la collectivité, on fait quelque chose qui... Évidemment, on est loin. Enfin, pour moi, on est loin, bien entendu.
Et vous ne pensez pas qu'un livre, ou quelquefois une simple phrase dans un livre, peut aussi bouleverser une vie?
Ah, mais ça, je le sais, j'en ai eu la preuve maintes fois. Bien entendu. Mais ça ne suffit pas.
Je disais que vous vous méfiez de l'appellation d'écrivain. En me répondant, vous m'avez indiqué que vous vous méfiez aussi des artistes, hein, que l'art, finalement, n'est pas du tout justifiable.
Et, un peu moins, quand même.
Pourtant, à propos de progéniture, vous parlez de théâtre.
Oui.
Ce qui est encore pire, d'une certaine manière.
Non, un peu moins, parce qu'écrivain, c'est... Le mot écrivain jouit en France, surtout, c'est un mot qui installe une personne dans une activité, sinon noble, du moins respectable, honorable. Mmh. Hein, écrivain, genre de lettres, etc. C'est quelque chose de très respectable en France. Artiste, écrivain, artiste a un tout autre sens, quand même. Mmh. Mmh.
Le théâtre, alors, c'est de la parole en acte.
Oui, la parole en acte, oui, entre autres, oui, oui, oui.
L'acte et la parole se rejoignent.
Mm-hmm. Quelquefois, oui.
Et vous avez une relation très forte à cet art du théâtre.
Oui, au théâtre, il y a d'autres arts de la scène. Hein. J'aime beaucoup le cirque, par exemple. Le cirque, par certains... côté, c'est plus...
Risqué ? Il y a du risque ?
Oui, c'est peut-être plus... Oui. Je pense que quand je parle de théâtre pour progéniture, je pense plutôt à quelque chose qui ressemblerait au cirque. Et il le faudrait, parce que... il y a toute une série de postures signifier l'image poétique, il n'y a que le cirque qui peut, il n'y a que l'acrobatie qui peut donner, qui peut d'une certaine façon représenter ou signifier ce genre de choses. C'est pas le théâtre. Le théâtre, ça reste à ce moment-là, l'image poétique, la déclaration poétique reste de la diction, pure et simple. Mais c'est avec le cirque qu'on peut vraiment élonger, raccourcir, on peut faire des choses avec la vitesse, par exemple. C'est un art qui serait peut-être plus proche du cirque parlé.
Les artistes de cirque sont rarement seuls. Il faut souvent la présence d'un partenaire.
Oui.
Dont on dépend.
Dont on dépend, oui. Oui. Mais j'ai ressenti ça un peu quand j'ai fait quand j'ai participé à ce spectacle chorégraphique en 97 avec Bernardo Monté, où de ma parole dite sur scène par moi-même dépendait le mouvement individuel et le mouvement collectif.
Boueux, l'orbite en poussiarée, ta poitrine tremblée, le comptoir caisse, ta mâchoire hac, mes cheveux chauds, d'eau, l'or, bordel, banlieue, France, de hanchier, gars, tes sons, un kilo chantant, cac banquet céleste, qu'à ta face mâchurée, tu charonneras, Roland, tueur, en rechauffe les salames dans sa taille, une mouche à Satan rentrée, s'assoupir dedans tes narines. Perse et garde, calilo, brûler ses restes vivants, dessus ses goulots éclatés, mâcherie, sa joue rose d'oreiller brodé d'or, quelle poubelle fourchée mon aîné d'avant mes trois lits debout, feu, poussière, grincement de dents, glame, froissement de feuillets saints, combien de litres de lait mes songes nous portaient.
Ce qu'on vient d'entendre, Pierre Guyotat, c'est un extrait du disque... de la lecture d'extraits de progéniture que vous avez faite au centre Georges Pompidou. Et mm-hmm. c'est un disque qui est servi avec le volume de progéniture. 38 minutes d'un texte qui, si vous le lisiez en entier, serait peut-être un peu plus long.
Oui.
Vous parlez d'inspiration à propos de progéniture. Vous faites l'éloge de l'inspiration. Il faut, dites-vous, pour lancer la machine à verbe, solliciter le cœur. C'est comme ça que le texte oui, peut
oui.
naître.
Entre autres, oui. C'est vrai que le cœur est un organe central, tout de même. Mais là, je ne suis pas le premier à le dire, hein, bien entendu. Mais je le dis, voilà.
Qu'est-ce qui se passe dans l'atelier du cœur ?
Je ne sais pas, il faut lire le livre pour le... parce que j'en parle à plusieurs reprises de ce genre de... Non, simplement j'en parle parce que c'est pendant... C'est quelque chose qui a été mis sous le boisseau pendant très longtemps quand même.
Sous le boisseau ?
Oui, provisoirement, disons.
Comment s'écrit un livre comme Progéniture ?
Mais il y a plusieurs périodes, vous savez, hein, plusieurs périodes. J'ai écrit dedans, je l'ai écrit dehors, je l'ai écrit à la main, je l'ai tapé, je l'ai... C'est aussi l'histoire d'une certaine façon de toute une période. Hein. Je n'ai pas écrit que ce texte pendant cette période-là. Hein. Mais ces textes sont encore inédits et il faut que je les retravaille. Mais comment vous dire ? Je sais pas.
Dans les entretiens avec Marianne Alphand, vous dites que la rédaction d'une œuvre de ce genre exige pendant des années une abstinence, une chasteté totale. Et vous insistez, vous dites « je dis total ».
Oui, total, bien sûr, oui. Oui.
C'est une sorte de grâce, alors.
De grâce, c'est-à-dire, qu'est-ce qui serait une grâce ?
Cet état dans lequel vous plongez avec méthode.
Oui, avec méthode, oui. Non, c'est une méthode, c'est pas rigolo.
On peut pas écrire sans...
Ah non, non, du reste, je dis bien que ce n'est pas du tout... C'est quelque chose qu'on ne peut pas généraliser, ça serait assez dramatique pour la production de Progéniture dans une nation, si tous ceux qui travaillent à quelque chose... sur la durée, s'arrêtait de... cesser de copuler, donc de progrès. Non, je ne dis pas du tout que c'est une... C'est pour moi... Enfin, pour moi, je ne sais pas. À vrai dire, je ne sais même pas. Je dis que ça s'est passé comme ça, pour moi. Hein, c'est tout.
C'est peut-être un peu
Parce
plus...
Parce que c'est la réalité. Vous me posez une question, j'y réponds.
Oui. Hein, c'est peut-être un peu plus qu'une méthode d'écriture. C'est peut-être aussi une révolte.
C'est possible aussi, oui. Il est possible aussi que... Oui, ça, oui, tout à fait.
Tout ce que je fais, dites-vous, je le fais pour me débarrasser de la sexualité.
Oui, alors à ce moment-là, au fond, commençons, d'une certaine façon. Au moins pendant la période pendant laquelle on agit.
Et Progéniture, ça serait cette révolte-là, contre, contre
tout,
le sexe.
Tout ce que j'ai pu faire, c'est ça, hein, c'est... Et en même temps, que ferait-on si on n'avait pas cette chose-là ? Quel texte serait écrit ? Qu'est-ce qu'il y aurait sur la Terre s'il n'y avait pas ce...
Il n'y aurait pas de progéniture.
S'il n'y avait pas ce besoin, oui. Mais enfin, bien entendu, il n'y aurait pas non plus de... Il n'y aurait pas d'art, il n'y aurait pas de foi, il n'y aurait rien. C'est évident. C'est évident. Mais c'est tout de même une réalité... dont il faut prendre conscience tous les jours, quand même. Hein. Moi, je ne fais que... Je crois que la poésie, c'est ça, au fond, entre autres choses. C'est remettre les gens devant des réalités que la plupart du temps, on vit sans y faire attention. Des choses aussi simples que celles-là, dont je parle dans l'explication. La matière, le mouvement de la matière, le mouvement... la réalité atomique de la vie, etc. La réalité de la procréation, du mâle, femelle, etc. Toutes ces choses-là devant lesquelles on passe tant voir. C'est ça la poésie. C'est pour ça que ça frappe chaque fois.
La poésie, c'est le grand mot de ce soir. Hein. Progéniture, c'est un titre qui vous est venu tout de suite.
Assez rapidement, oui, assez rapidement. Vous savez, c'est difficile de titrer une chose de ce genre.
Mais est-ce que vous pouvez écrire un livre pendant des années sans que ce livre ait déjà un titre?
Non, je l'ai trouvé assez rapidement, assez rapidement.
Et comment l'entendre, ce titre?
Ben ça, justement, au moins, que cette réalité-là, que tout est procréation, et aussi dans le cas précis de cette œuvre, qu'effectivement, les récits, enfin les scènes s'engendrent les unes les autres, quelquefois il y a des scènes en quelque sorte qui engendrent et qui laissent leur petit, si je puis dire, qui laissent mourir leur progéniture, c'est-à-dire les scènes meurent. Les scènes meurent, ou alors elles donnent précocement naissance à d'autres scènes, mais très précocement.
Donc il y a des progénitures de paroles.
Progénitures de paroles, mais de scènes, je dis bien, hein, de scènes.
Mais un peu plus loin dans le texte, vous dites aussi que votre rêve est d'être père de famille avec beaucoup d'enfants.
Oui, oui. Mais ça, c'est pas nouveau, hein, c'était une très vieille chose chez moi.
Progéniture, vous l'entendez comme une comédie, pas comme une tragédie. C'est ce que vous dites, en tout cas, dans l'explication.
Oui. Mais non, pas du tout, parce que tragédie...
Vous avez varié sur ce point.
Tragédie, ça voudrait dire que... Ça voudrait dire que... Au fond, je prends conscience, en quelque sorte, d'une façon... très rationnel comme ça, de la tragédie du monde, hein, du drame du monde, la tragédie du monde. À ce moment-là, ça serait une sorte de... Je ne m'en sens pas là... Enfin, je la vois, cette tragédie, enfin, ces tragédies, je les vois, mais je ne me sens pas là encore assez solide pour, en quelque sorte, instituer, mettre sur pied... une tragédie du monde. Donc ce que je fais, c'est que je mets en quelque sorte des objectifs sur des tragédies où j'insiste, je focalise sur certaines tragédies ou sur certaines cruautés du monde. La cruauté n'est pas loin de la tragédie, c'est la même chose. Mais instituer le monde comme tragédie, comme l'ont fait certains dramaturges, pour des cas bien particuliers, hein. Une tragédie du monde, ça n'existe pas encore. Ça suppose une vision très, très installée, des convictions installées, que peut-être je n'ai pas. Donc j'y vais par, d'une certaine façon, par petites touches. Des touches qui sont tout de même assez féroces, tout de même, malgré tout.
Des touches de peintre?
Voilà, peut-être, ou de musicien, de ce qu'on veut.
Oui.
Mais je me sens pas la force. La force est même peut-être le ridicule de faire une tragédie avec les tragédies du monde. Voilà.
Vous parliez de scène tout à l'heure, mais il vous arrive aussi de préférer le mot tableau. Hein. Vous dites que c'est un livre de tableau mis en musique.
Voilà, disons que les scènes, par moments, les scènes engendrent des tableaux teints, les tableaux engendrent des scènes, les figures sortent de ces tableaux et bougent. Hein. Voilà, c'est un engendrement perpétuel.
Et la langue alors, la langue dans laquelle vous écrivez? Parce que habituellement, on dit que vous inventez une nouvelle langue.
Non, mais j'ai bien dit que c'est pas...
Et vous vous inscrivez en faux.
Non, je m'inscris en faux, absolument.
Alors qu'est-ce que c'est?
Non, c'est la langue française.
Oui.
C'est la langue française.
Avec son histoire. Avec son histoire, son ampleur.
Oui, son ampleur, son histoire, son... Le son de cette langue, le... Oui. Son mouvement, son...
C'est une langue transformée, quand même.
Transformée, mais transformée à l'aide de... Peut-être si je peux dire, de transformations qui ont existé dans cette langue. C'est ce que je ressens de cette langue qui me pousse à certaines transformations. Je ne transforme pas tout, comme vous avez pu le voir, je ne transforme pas tout. Je transforme ce qui me paraît devoir l'être. Compte tenu de ce que je connais de cette langue par ailleurs, ce n'est pas une transformation abstraite, c'est une transformation avec le son, avec le rythme et avec l'histoire de cette langue. Et on reste toujours dans cette langue. De cette langue et des langues adjacentes aussi, des langues fondatrices de cette langue, hein, le latin par exemple, ou la langue germanique, le grec éventuellement, et puis les langues adjacentes aussi.
Sortir de cabane de ma mère repudiée, de leur fricot de nuit, ses coutumiers, retâcher dans sa bouche, cracher dans ma bouche, la bouite menée au point à la table d'embauche, notre délice de mes entrailles, son rouge aux hommes au front, 77 refus d'embauche, le dernier, le propriétaire du charnier, vert dans ses orteils, masque l'oreille. Les dernières couilles, notre lien à embaucher, leur trouver leur lien.
Deux livres de Pierre Guyotat, Progéniture chez Gallimard et Explication des entretiens avec Marianne Alphand aux éditions Léo Chêne.